On propose de commencer à l'heure ce soir. C'est une bonne idée parce que la soirée est bien remplie, vous savez. Je suis enchanté d'avoir l'occasion de prendre la parole quelques instants devant vous à l'occasion de ce forum. Je veux d'abord dire bienvenue. Ce faisant, je sais que je dis bienvenue à des gens qui, en très grande partie, sont ici chez eux, qui travaillent ici tous les jours, qui étudient dans ces murs ou ont étudié dans ces murs, et parfois depuis plusieurs années. Donc pour ces personnes-là, c'est évidemment un étrange mot d'accueil. Mais je sais que dans l'assemblée que nous formons, il y a aussi des personnes qui ne sont pas familières de cet endroit. Il y a des personnes qui connaissent pas, ou très peu, ce lieu que sont les facultés Loyola Paris. Il y en a peu, mais il y en a. Ce lieu, si vous ne le connaissez pas trop, c'est peut-être important d'en dire un mot parce que c'est aussi la raison d'être des forums, de donner à voir une partie de ce qui se vit ici. Vous êtes donc ici dans un lieu où sont réunies une faculté de théologie, une faculté de philosophie et une bibliothèque universitaire, le tout représentant un cadre de formation académique pour nos étudiants et pour les auditeurs. Nous sommes des facultés jésuites, les seules facultés canoniques directement attachées à une congrégation en France, qui ont comme caractéristique à la fois leur dimension internationale, leur pédagogie propre, bien sûr, c'est-à-dire la manière d'accompagner les étudiants, d'évaluer, de faire cours, etc. La variété des publics, probablement, mais aussi, je crois qu'on s'en rend compte assez rapidement, un certain esprit de famille qui règne et auquel tout le monde est attaché. Dans cette petite présentation, à destination donc, pardon, à destination prioritairement de ceux qui connaissent moins la maison, j'ajoute que nous sortons d'une année jubilaire en 2024, au cours de laquelle nous avons fêté nos 50 ans. Chaque faculté est bien plus ancienne, évidemment, mais la réunion de ces deux facultés dans ces murs s'est faite en 74. Ça a donc été l'occasion d'un changement de nom, de Centre Sèvres. Nous sommes devenus Faculté Loyola Paris. Vous qui ne connaissez pas trop cette maison, donc, retenez cela. Ici, vous pouvez suivre des cours de philosophie et de théologie. Ici, vous pouvez vous lancer dans des études longues ou passer des diplômes universitaires ou suivre seulement tel ou tel cours en auditeur libre ou venir pour une conférence ponctuelle. Ici, vous pouvez participer à un cours d'initiation au Nouveau Testament ou approfondir votre connaissance de Hannah Arendt. Vous pouvez suivre une introduction à la pensée de Paul Ricoeur, ça commence la semaine prochaine, je le dis en passant, ou suivre un cours sur la théologie du don. Cela, je veux dire, cette variété dans les propositions, nous y tenons parce que c'est aussi la mission des facultés. En plus d'accompagner les étudiants des cycles canoniques, ouvrir des cours à ce qu'on appelle un grand public éclairé, et en l'occurrence, le grand public éclairé, ça peut être vous. Après ce mot de bienvenue, où je me suis permis de glisser un léger message publicitaire, c'était très discret, après avoir pris le temps de vous présenter rapidement les facultés Loyola Paris, eh bien je voudrais simplement, dans ce petit mot d'accueil, prendre encore quelques instants pour dire merci. Merci de votre présence, c'est évident. Merci aux fidèles, comme à ceux qui sont ici pour la première fois. Merci aux intervenants de la table ronde qui nous font l'honneur et le plaisir de leur présence. Mais merci aussi à ceux qui préparent ces forums, les étudiants, les salariés, les enseignants de la maison. C'est toujours très remarquable de voir la capacité des personnes à se mobiliser pour préparer des moments comme celui-ci, d'autant plus que, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, on sort d'une année jubilaire qui, si elle a généré beaucoup d'événements très heureux, a aussi très logiquement contribué à user l'énergie et la bonne volonté des personnes qui œuvrent pour tout préparer. C'est donc pas une manière de parler. Merci beaucoup à tous ceux qui ont travaillé pour que cette édition 2025 du Forum des facultés Loyola Paris soit réussie. Après avoir dit bienvenue et merci, je crois que j'ai rempli l'essentiel de mon devoir de recteur, mais je peux encore dire un mot peut-être de ce qui nous attend. Vous avez tous le planning en main. J'attire votre attention en particulier sur le repas solidaire par lequel notre soirée se terminera après le temps de prière, repas qui est proposé cette année au profit de l'association La Pierre d'Angle. que Jean-Pierre Caillaud nous présentera dans un instant. Je rappelle le principe du repas solidaire. Tout ce que vous versez va intégralement au profit de cette association. Le tarif, vous avez vu, c'était 5 euros minimum. Et je précise, parce que c'est heureux, qu'on a déjà collecté 1000 euros pour cette association, donc merci à vous tous. J'ajoute qu'il reste un peu plus d'une vingtaine de places, donc si vous ne vous êtes pas inscrit, vous pouvez encore dîner avec nous, mais on m'a demandé de bien préciser, à condition que vous payiez au moins 5 euros par personne. Voilà, je le fais. Hein. Pour finir, comme le mois de janvier n'est pas tout à fait terminé, je profite de ce moment pour vous adresser mes meilleurs vœux, évidemment. Et que peut-on souhaiter? Que pouvons-nous nous souhaiter collectivement? Pour honorer cette année jubilaire qui a pour thème Pèlerin d'espérance et auquel, bien sûr, le titre de la table ronde fait écho, souhaitons-nous au moins d'avoir l'occasion de vivre sérieusement, dans nos existences particulières, là où nous sommes, selon l'espérance. Mais comme c'est un peu vague, j'ajouterai peut-être un deuxième vœu pour préciser ce premier. Ce vœu, ce serait que nous ne perdions pas de vue ceux pour qui l'espérance apparaît comme étant trop dure ou impossible à ce moment-là de leur vie. Eh bien, avec eux aussi, avec ceux-là aussi, soyons pèlerins. Je vous souhaite une excellente soirée aux facultés Loyola Paris, un bon forum et une très belle année 2025, évidemment. Je passe maintenant la parole donc à Jean-Claude Caillaud de l'association La Pierre d'Angle.
Merci beaucoup. Bonjour à tous et à chacun, ceux que je connais, je vois des gens que je connais, et tous les autres. L'association de la Pierre d'Angle a commencé à la fin 2001. Ça fait déjà quelques années. Et ce sont aujourd'hui des fraternités, 23, à travers la France, dont les membres sont en majorité des personnes du quart monde, et puis d'autres, comme moi, les rejoignent. Notre objectif, notre finalité, mais aussi notre manière d'être, de faire, notre volonté, est de lire ensemble l'Évangile, et pas seulement de le lire, pas seulement non plus de prier à partir de lui, mais de le travailler. Et d'essayer, c'est une gageure, mais quelquefois la volonté est utopique, d'essayer de transmettre leur pensée, je dis bien leur pensée, la pensée des personnes du quart monde, à l'Église, car cette pensée, pensons-nous, est source pour l'Église. Alors il nous a semblé essentiel de laisser grandir des lieux où des personnes vivant la grande pauvreté, la misère, puissent reconnaître qu'ils ne sont pas voués à la malédiction et qu'ils peuvent vivre avec d'autres leur foi hors de toute peur. Alors ensemble, nous essayons de suivre le Christ à l'intérieur d'une spiritualité très singulière, celle engendrée par le père Joseph Wrzesinski, que je résumerai ainsi, mais trois lignes ne résument pas. Donner la priorité aux plus pauvres et nous mettre à leur école, écouter pour apprendre et transmettre à l'Église ce qui lui manque. Sans oublier de favoriser un engagement là où se transforme et continue de se construire la cité. Car notre objectif est la construction du royaume, c'est-à-dire la destruction de ce qui détruit l'humanité de l'humain. Pour terminer, je voudrais vous lire quelques lignes d'un homme du quart monde qui décrit à sa manière la Pierre d'Angle. Je cite. La Pierre d'Angle, c'est un appel du Seigneur, on se retrouve autour de l'Évangile et de la foi. On apprend ensemble. Tout seul, on ne peut pas vivre. On parle dans le vide. La croyance, on a besoin d'en parler. L'œuvre de Dieu, c'est écouter le peuple. L'œuvre de Dieu, c'est transmettre la joie et l'amour à tout le monde. Tous les chrétiens doivent s'y mettre, pas seulement les évêques ou le pape. Il faut qu'on s'y mette, nous aussi. Déjà, quand on se retrouve, comme dans le groupe de la Pierre d'Angle, on commence à le faire. Merci.
Je passe maintenant la parole à Gwenola.
Alors c'est à mon tour de prendre la parole et de vous souhaiter la bienvenue au Forum des facultés Loyola Paris. En tant que responsable de notre bureau des étudiants, j'aimerais simplement préciser pourquoi les étudiants ont choisi ce thème, puisque ce sont les étudiants qui ont choisi ce thème en accord bien sûr avec le recteur. Eh bien, c'est qu'il nous a semblé que nous vivons dans un monde en crise. Partout où nous regardons, nous la voyons cette crise. La guerre dans le monde, les personnes supprimées, invisibilisées, les personnes poussées à l'exil, les abus dans l'église, le dérèglement climatique. Tout cela, ça peut nous sembler insurmontable, comme une avalanche qui serait sur le point de nous ensevelir. Mais nous chrétiens, face à cette crise, nous sommes véritablement appelés à espérer.
Attendez.
Oh, merci. Merci pour ton intervention. Alors sachez que nous avons laissé un bon moment à la fin pour que vous puissiez poser des questions. C'est très important que vous ayez la parole. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, gardons le silence. Je reprends mon introduction.
Assez silence.
Merci. Merci vraiment pour toutes ces contributions. Ce que vous apportez, c'est très important, mais ici, nous sommes dans une conférence académique. Ce n'est pas le lieu pour raconter des histoires. Alors, nous allons essayer d'aborder le sujet de l'espérance dans un monde en crise, mais d'une manière nette. Nette et objective.
Nette et objective.
Bon. Comme j'étais en train de le dire, avant d'être interrompue, notre thème cette année, c'est l'espérance dans un monde en crise. Et on doit bien sûr commencer par interroger la nature de cette espérance.
Bonsoir à toutes et à tous. Voilà maintenant la partie objective, claire, académique. On espère pouvoir faire aussi bien. Les intervenants qui arrivent et que je vous présente vont faire certainement aussi bien. Je vous présente sœur Isabelle Le Bourgeois. Approchez, asseyez-vous. Maxime Gabory et François Audinet. Je vous les présente en deux mots. Vous m'entendez? Les micros marchent bien? Oui. Sœur Isabelle Le Bourgeois, vous êtes donc sœur auxiliatrice.
Oui, jusque-là, oui.
Vous avez été pendant très longtemps aumônier de prison. Vous êtes psychanalyste. Et votre dernier livre qui est paru aux éditions Albin Michel s'appelle « Vivre avec l'irréparé ». Vous nous direz pourquoi « Vivre avec l'irréparé » est une façon peut-être de répondre à cette question qui nous occupe aujourd'hui. Maxime Gabory, vous êtes doctorant en sociologie à Sciences Po et à l'Université catholique de Louvain. Vous travaillez sur les militants pour le climat, la désobéissance civile, les actions plus ou moins radicales. et en particulier sur la pensée de la mort et de l'extinction chez ces militants. Et François Audinet, vous êtes prêtre du diocèse du Havre, aumônier général du Secours catholique et enseignant ici aux facultés Loyola Paris, maître de conférences en théologie pratique. Et vous avez, voilà, ça va, ça suffit. Et votre, et un livre aussi qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, Maintenant le Royaume aux éditions Salvator. C'est bien ça? Aux éditions DDB, pardon, pour les représentants de DDB qui sont dans cette salle. Alors, en tout cas, comme je l'ai dit, c'est nous qui allons, c'est vous qui allez essayer de répondre à cette question en termes, je me souviens plus des mots de Gwenola, objectifs, clairs, officiels. Et donc, peut-être pour commencer, comme on est dans un cadre académique, il faut définir un petit peu les termes du sujet. C'est une partie que je vais prendre un peu pour moi avant de vous écouter sur le sujet. D'abord, peut-être la crise. On a entendu quelques-uns, les nombreux aspects de la crise protéiforme qui nous occupe aujourd'hui, mais en préparant cette rencontre, j'ai trouvé une petite citation du philosophe Edgar Morin que je voudrais vous lire. Je l'ai trouvé dans un article qui s'appelait « Pour une chrysologie » et qui est paru en 1976. Alors, je vous la lis. Cette notion de crise, en se généralisant, s'est vidée de l'intérieur. À l'origine, crisis signifie décision. C'est le moment décisif dans l'évolution d'un processus incertain qui permet le diagnostic. Aujourd'hui, crise signifie indécision. C'est le moment où, en même temps qu'une perturbation, surgissent les incertitudes. Alors j'ai trouvé que cette réflexion était intéressante puisqu'elle montrait un peu l'ambivalence du mot crise, parce que je ne sais pas si une définition a succédé à l'autre. La crise, c'est à la fois un moment propice où quelque chose se cristallise, où un diagnostic peut se faire. On pourrait dire que c'est le moment de la décision. Mais en même temps, la crise, c'est le moment où la pensée même semble empêchée. Le temps de l'incertitude. Pour les étrangers qui sont dans cette salle, en français, on a une expression à laquelle j'ai pensé en lisant ça, c'est comme un lapin dans les phares d'une voiture. C'est le moment où on doit bouger, où on doit faire quelque chose et où on se retrouve pétrifié. Alors, il nous reste peut-être pour articuler cette notion qui est quand même très ancienne aussi. Edgar Morin écrivait ça il y a 50 ans, mais la crise, c'est sans doute une constitutif de l'humanité. Enfin, on va le voir avec vous, c'est ancien, la crise, la pensée de la crise. Peut-être même que c'est la condition historique collective de l'humanité et personnelle, anthropologique. Pour lier ça avec l'espérance, j'aurais peut-être dû aller chercher chez Moltmann, mais j'ai pas osé, parce que je suis pas arrivé jusque-là dans mon cursus ici. Donc j'ai simplement pris l'épître aux Romains de saint Paul. Je vais pas vous lire tous ces versets que sans doute vous connaissez. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Et un peu plus loin, nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule, nous-mêmes nous gémissons. Je m'arrête là, mais avec cette image de l'enfantement, qui illustre évidemment ce que peut être une crise, un temps de douleur, un temps de souffrance, un temps de risque aussi, un temps où dialogue peut-être la vie et la mort, un temps propice qui articule le passé, le temps de la conception, le temps de la gestation, et l'avenir, celui d'une vie qui commence. Alors, je vais vous laisser tous les trois nous dire comment vous entendez ce sujet, en précisant quand même, à mon avis, ce qui vous lie un peu d'emblée. Vous partagez tous les trois, à différents endroits, auprès des militants pour le climat, auprès des détenus, qui sont parfois des avant auprès des détenus, mais vous avez ou auprès des personnes que vous rencontrez en analyse et qui sont parfois des prédateurs, des gens qui sont coupables de choses très graves, auprès des exclus ou des personnes en grande pauvreté. C'est des endroits où la crise ne peut pas être cachée, ne peut pas être enfouie sous le tapis. Et ce sont des endroits aussi où la crise prend une dimension politique, peut-être, au sens où elle met en jeu notre façon de vivre ensemble, notre façon de faire société. Et donc, tous les trois, on peut dire, vous regardez en face la crise Et vous refusez certainement, mais on va le voir, vous allez nous le dire, de considérer l'espérance comme un échappatoire, une façon de regarder vers le ciel en détournant les yeux de notre terre, qui est parfois bien basse. Et donc, voilà, la crise, c'est aujourd'hui que nous la vivons, qu'elle est là, et l'espérance, c'est aujourd'hui aussi qu'on doit la vivre. Alors, avec quelles ressources? Comment la partager? C'est ce qu'on va peut-être essayer de voir ensemble. Je vais vous laisser la parole. François, Odinet, est-ce que vous voulez bien commencer, nous dire comment vous pensez ces termes de crise, peut-être d'abord, et puis d'espérance?
J'aurais volontiers envie de repartir de ce qu'on a entendu il y a quelques minutes. Est-ce que c'est possible de réfléchir de façon académique en racontant des histoires? Et est-ce qu'on peut parler d'espérance en racontant des histoires? Moi, j'aurais tendance à dire, pour ma part, est-ce qu'on peut parler d'espérance aussi en écoutant des histoires? Pour moi, la question en tout cas de savoir s'il y a une espérance possible dans cette crise qui arrive sous bien des paradigmes et de bien des manières, ce serait de savoir à partir de qui est-ce que nous nous posons la question de l'espérance? Chez qui est-ce que nous allons chercher l'espérance? Est-ce que nous voulons produire un discours général sur l'espérance en espérant qu'il s'appliquera à tout le monde, y compris à ceux dont les vies sont les plus difficiles? Ou bien est-ce que nous pouvons penser que les histoires les plus difficiles, que les voix qui viennent du plus loin, ont quelque chose à nous apprendre de l'espérance? Est-ce que même peut-être leur manière de vivre une espérance a quelque chose à nous apprendre à tous? Dans cette idée qu'on peut apprendre l'espérance, c'est-à-dire que c'est pas forcément un sentiment spontané, que c'est pas non plus simplement donné avec le fait de croire en Dieu ou de mettre sa confiance en Dieu de façon automatique, mais avec cette idée que l'espérance s'apprend, alors il me semble qu'on peut, en écoutant l'histoire, en ce qui me concerne, de personnes qui vivent la précarité, voire la grande précarité, et en essayant de, je peux pas dire de partager leur vie, mais de partager quelque chose de leur combat, alors il me semble que là, on apprend quelque chose de l'espérance. Peut-être je peux dire juste une chose je crois avoir appris ou apprendre, c'est que on imagine souvent l'espérance, et on a un héritage de toute la théologie médiévale un peu là-dessus, on imagine souvent l'espérance comme un peu monter sur une montagne, voir loin, se dire qu'on peut aller là, et c'est ça qui nous donnerait la force pour faire le trajet. Il me semble que des personnes qui ont des vies tellement difficiles sont jetées depuis toujours dans un combat qu'elles n'ont pas choisi, dans une lutte parfois pour survivre, parfois pour vivre en affirmant leur dignité, dans une lutte quotidienne et donc dans une résistance quotidienne à ce qui menace de les écraser à tout instant. C'est pas seulement ce qui pourrait les écraser, c'est ce qui vraiment menace maintenant et déjà hier et encore demain de les écraser. Et il me semble que dans cette résistance-là quotidienne, c'est là que naît quelque chose de l'espérance. C'est-à-dire que pour beaucoup de ces personnes, c'est en étant obligées d'être dans cette lutte qu'elles ne choisissent pas et qui est leur pain quotidien, que là, puisqu'elles tiennent debout, puisqu'elles essaient de prendre soin de leurs enfants, puisqu'elles essaient de prendre soin des autres et qu'elles le font, etc., là, il y a quelque chose de l'espérance, qui n'est pas du tout le fait de voir loin, mais qui est le fait de rendre aujourd'hui vivable.
Isabelle Le Bourgeois, je vous passe la parole pour peut-être une première parole sur ce sujet, ces termes. Comment est-ce que vous les avez entendus? Comment est-ce que vous avez pensé cette question en arrivant?
Alors, espérer dans un monde en crise, moi le mot crise ne me convenait pas, même s'il a été très bien traité là, mais bon. Moi, j'aurais dire espérer dans un monde en souffrance. Parce qu'en fait, c'est ça dont je suis témoin tout le temps, comme beaucoup d'entre nous, évidemment. Mais dans le métier d'écoutante que je fais, c'est la souffrance extrême des hommes et des femmes que je rencontre. Et moi, c'est de mon espérance à moi dont j'ai envie de parler. C'est-à-dire que comment la faire tenir dans l'écoute extrêmement des profondeurs, on va dire, hein, de ceux et celles qui viennent me voir, je suis psychanalyste, on parle pas de la pluie et du beau temps. Bon. Et quand me sont déversées j'allais dire, des tombereaux de malheurs, de difficultés, d'impossibilités à vivre, d'incertitudes, d'impuissance. Ben moi-même, ça m'ébranle. Voilà. Je me dis, ben, ça vient toucher quelque chose dans le fond de moi-même. Et on me dit, mais et toi, tu tiens comment dans l'espérance face à tout ça? Et finalement, c'est ce travail-là que j'essaye de mettre en mots en quelques instants, là, devant vous, et qui me fait écrire aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, en moi, va me permettre de tenir? Eh bien, je crois que, comme le disait François, là, c'est vrai que ceux qui tiennent malgré tout et envers tout me laissent, j'allais dire, dans une espèce de contemplation formidable qui m'aide moi-même. Je suis fasciné aujourd'hui par le Vendée Globe. Alors, le Vendée Globe, c'est une aventure dans laquelle je vais pas raconter le détail, mais c'est extraordinaire comme affaire. Et il y a quelque chose là, dans ce Vendée Globe, qui s'appelle le point Nemo, le passage par le point Nemo. Le point Nemo, c'est l'endroit en mer le plus éloigné de toute Terre. 2600 kilomètres, voilà, la Terre la plus proche. Et les humains les plus proches sont les spationautes à 450 kilomètres. Faut dire que la proximité humaine n'est pas terrible. Eh bien, j'ai l'impression que cette extrême solitude, qui est le passage du point Nemo, faut le faire quand même, hein. Mais c'est volontaire, là. C'est cette aventure-là que les gens viennent déverser dans mon cabinet. Tous les points Nemo par lesquels ils passent. Toutes ces solitudes, toutes ces impuissances, tout d'un coup, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va me tenir? Eh bien, moi, je me dis qu'ils viennent me dire ça, qu'ils viennent interroger chez moi. Cette question-là m'oblige moi-même à me demander, mais, et toi, comment tu tiens dans l'espérance? Qu'est-ce qui te fait tenir? Pas tout de suite, ou je réponds tout de suite? Non, pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Je fais un peu de suspense, mais c'est pas vraiment du suspense.
Mais on n'oublie
pas. Non, mais c'est pour pas prendre trop de temps, voilà, c'est ça.
Non, mais on n'oublie pas, vous allez nous dire la réponse.
Oui, je vous dirai, je vais pas perdre mon affaire, non.
Mais on va écouter Maxime et Gabory. Je crois que vous non plus, le mot crise ne vous convenait pas particulièrement.
En tout cas, c'est sans doute peut-être pas celui qui convient le mieux dès lors qu'il s'agit de du réchauffement climatique pour désigner ce qui se passe. Alors je suis très heureux de pouvoir en discuter ici dans ce cadre là, parce qu'en tant que doctorant en sciences sociales, apparemment la théologie peut paraître parfois un peu loin, mais je suis assez convaincu du fait qu'il est déjà impossible de faire vraiment des sciences sociales sans un peu de philosophie, mais aussi peut-être parfois sans théologie, dès lors qu'on touche à des sujets qui touchent à des dimensions parmi les plus profondes de l'existence, et notamment le face-à-face avec la possibilité d'extinction au pluriel, c'est-à-dire d'autres entités qui s'éteignent autour de nous, et de faire l'expérience commune d'un monde qui fait face à des désastres massifs. Et donc dans mon travail de recherche, effectivement, je suis aux côtés des militants pour le climat, et si le terme de crise me semble a priori pas ce qui désigne le mieux le réchauffement climatique, c'est que dans le terme de crise, il y a toujours, au moins en partie, la possibilité d'un retour à la normale. La crise, dans le moment de décision dont vous avez parlé, suppose aussi la possibilité que ça aille pour le plus mal, mais aussi que ça revienne en quelque sorte à la normale. La crise n'aurait été qu'un passage entre deux moments de normalité. Dans le discours des militants pour le climat, et qui est pas seulement un discours politique, qui donne aussi à voir une réalité scientifique, le terme de catastrophe revient plus, et ce qui est plus intéressant dans le terme de catastrophe, ou ce qui dit en tout cas autre chose, c'est le fait de devoir vivre avec la perte, avec une situation dans laquelle le retour à la normale est impossible. Ce qui distingue la catastrophe de la crise, c'est peut-être que dans la catastrophe, on doit vivre avec les conséquences de la catastrophe sans pour autant revenir tout à fait à la normale. Ce qui fait le cœur de ma recherche, c'est d'essayer de voir ce qui se joue de très spécifique dans le mouvement pour le climat et qui dit quelque chose aujourd'hui de notre monde en général et qui dit une évolution par rapport au discours passé. Plus encore peut-être que le terme de catastrophe, c'est le terme d'extinction qui me semble un peu central aujourd'hui parce que le discours aujourd'hui s'intéresse à la question de la vie. Ce qui distingue les militants écologistes contemporains des militants du passé, c'est la centralité du discours de la vie, et pas seulement de la vie humaine, aussi de la vie du vivant en général, des animaux, des végétaux, et peut-être de la planète elle-même. L'expression « planète vivante » est revenue plusieurs fois dans les discours de Greta Thunberg, qui ont été à un moment le moteur du militantisme pour le climat. Et je crois que ce qui m'intéresse dans la question de l'espérance, c'est la manière dont j'essaye de l'approcher avec des outils sociologiques, alors de m'intéresser qui dans le mouvement pour le climat, avec quelle expérience sociologique, a telle et telle action, tel et tel point de vue, c'est d'essayer de comprendre comment l'espérance se fait depuis la conscience de la perte irrémédiable, et non pas en essayant de considérer que la perte n'est pas centrale, et comment elle s'enracine aussi dans un mouvement vital et qui prend pour point de départ la vie comme mouvement de résistance face à la mort, et que c'est depuis ce point de vie, dont on aura l'occasion peut-être de parler, que réémerge de l'espérance, et ce, qu'on soit en quelque sorte chrétien ou non dans le mouvement pour le climat, c'est des mouvements qui dépassent en quelque sorte l'opposition entre les croyants et les non-croyants, même si la question de la foi peut revenir à des endroits parfois assez surprenants.
Est-ce que ça veut dire, parce qu'on a entendu François Audinet et Isabelle Le Bourgeois nous dire que c'est en écoutant, en regardant les autres, qu'ils voyaient à partir d'où on pouvait espérer, à partir des autres. Est-ce que vous aussi, si j'ai bien compris, ces militants pour le climat, croyants ou non, sont ceux qui vous indiquent quelque chose comme une voie, un chemin d'espérance?
D'une certaine manière, oui. Alors, dans mon parcours très personnel, ce projet de thèse, c'est aussi est complètement lié à une conversion qui peut pas être déliée de cette expérience-là et qui m'a conduit jusqu'au baptême il y a quelques mois. Et c'est aussi dans l'expérience de ces militants qui affrontent l'extinction que quelque chose effectivement peut, comme une espérance, peut renaître. Mais je dirais que pour eux aussi, c'est dans le fait de voir le monde qui l'entoure, l'ensemble des humains autour d'eux et du vivant autour d'eux comme vulnérable, radicalement vulnérable, c'est-à-dire radicalement menacé de mort et d'extinction, que quelque chose comme de l'espérance peut renaître. Comme de l'amour déjà, parce que prendre en compte la manière singulière qu'a l'autre de pouvoir s'éteindre, c'est déjà commencer à l'aimer, et par là, peut-être, construire une espérance.
Comment est-ce que vous entendez ça, François Audinet, pour les personnes en grande précarité, les personnes exclues que vous rencontrez, est-ce que ça va, j'allais dire d'une certaine façon, jusque-là, jusqu'à penser quelque chose comme la mort, l'extinction, et vraiment traverser la mort quand vous dites que c'est à partir d'eux qu'on peut penser l'espérance?
Alors, c'est sûr que il me semble que des personnes qui vivent la grande précarité sont en permanence confrontées à la mort, en permanence. Un philosophe, Guillaume Leblanc, a parlé de mort sociale pour caractériser l'expérience de très grande précarité. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de ça, et mort sociale ne veut pas dire que la mort n'atteindrait que quelque chose, veut dire que la déliaison sociale forte, le désespoir aussi, les conditions de vie parfois très difficiles, ça installe la mort dans une existence, au point qu'elle n'est plus forcément vivable. Voilà. Donc je pense qu'en effet, les personnes qui vivent la grande précarité, comme les personnes qui subissent la guerre, évidemment, sont confrontées à la mort, évidemment. J'aurais tendance à dire, l'espérance, c'est ce qui fait tenir, sans doute, ou l'espérance naît de devoir tenir, d'une certaine manière, pour soi, pour d'autres, mais pour moi, elle s'incarne aussi dans la capacité qu'ont les personnes qui subissent la misère ou qui subissent la guerre à être capable d'inventer, à être capable de commencer. Et confronté en effet certainement à des catastrophes plus qu'à des crises avec des retours en arrière, confronté à des catastrophes, parfois à des formes de descente aux enfers, il me semble que leur capacité à faire commencer quelque chose, à rendre le quotidien habitable, voire joyeux, à créer des formes de relations, voire des formes de salut, cette capacité-là pour moi, elle nourrit l'espérance autant qu'elle est nourrie par l'espérance. Et je pense que pour beaucoup d'entre elles, lorsqu'elles sont croyantes, là, il y a une trace de l'action de Dieu dans leur existence.
Isabelle Le Bourgeois, vous allez d'abord répondre à la question que vous nous avez laissée avec un suspense.
Terrible,
presque
oui.
Insoutenable. Alors, puisque vous n'avez pas perdu le fil, dites-nous, vous en étiez à... Qu'est-ce qui est vous, alors? Comment est-ce que vous espérez? Où est-ce que vous trouvez?
Alors, j'ai... Comment dire, ça a été très long pour moi de trouver exactement, disons les points sur lesquels je peux effectivement poser mon espérance en pensant qu'elle peut tenir à peu près. Le premier point, c'est la promesse. Est-ce que je crois en la promesse avec un grand P, voilà. Est-ce que je crois en l'alliance faite entre Dieu et les hommes et que ça, c'est pas du pipeau, si j'ose dire? Que ça tient quelque chose de vital en moi et dans l'humanité. Bon. Premièrement. Deuxièmement, je crois profondément que lorsque moi je flanche, d'autres tiennent bon. Ce que j'appelle un tout petit peu comme ça, la communion des saints. C'est pour moi une manière de parler de, vous savez, ce chapitre dans Marc, là, au début, ce paralytique qui est descendu au pied de Jésus par quatre brancardiers. Eh bien, tantôt je suis sur la civière, tantôt je suis un des brancardiers. C'est-à-dire que je crois que si moi je désespère, et ça arrive, d'autres continuent à tenir la flamme de l'espérance. Voilà. Ça, c'est extrêmement fort chez moi. Et j'entends dans mes patients, ou chez mes patients, quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire que si moi je flanche, ça va pas tenir notre affaire. Voilà. Donc, il y a quelque chose chez eux qui vient s'accrocher sur l'espérance que je peux avoir, que le malheur qu'ils apportent va se transformer en autre chose, voilà. Que de là va surgir de la vie. C'est une traversée de la foi pour moi, ça, très profonde. C'est une expérience. Et c'est en même temps un lieu de résistance très fort. J'ai beaucoup aimé ce mot de résistance, nous l'avions tous les trois tout à l'heure quand nous parlions un peu. Mais c'est quand même ça, c'est un acte de résistance. Voilà. Mais on peut pas laisser, à un moment donné, si on croit à la force de cette promesse, on peut pas laisser la mort déterminer tout. Or là, ça envahit beaucoup d'espace, un peu partout, bon c'est vrai. Mais justement, quand j'entends à la fois des victimes, mais en même temps des personnes, j'allais dire coupables d'actes un peu complexes à écouter, bon. Enfin, j'ai été 14 ans en moyenne de prison, donc les actes complexes, j'ai un peu entendu quand même. Eh bien, quand on entend tout ça, se dire, mais finalement, qu'est-ce qui va tenir en moi, qui va permettre que quelque chose continue de l'ordre de la vie? Eh bien, je pense que pour chacun d'entre nous, tant qu'il y en a quelques-uns qui tiennent comme ça, l'espérance ne mourra pas et la vie triomphera. C'est peut-être tellement enfantin de dire ça comme ça, et en même temps, je crois que c'est un acte de foi profond. Voilà.
François Audinet, on entend des points communs entre vos discours et on entend que vous, d'abord un besoin des autres pour espérer, un besoin de regarder les autres, d'écouter les autres, de trouver l'espérance dans ce que d'autres vivent, cette façon d'inventer, cette façon de regarder vers l'avenir. Mais Isabelle Le Bourgeois parlait de résistance. Alors c'est bien pour soi-même, de se dire c'est une histoire de résistance et puis on a besoin des autres. Mais on peut pas enjoindre l'autre à résister, on peut pas lui dire il s'agit d'être résistant. Quand on a affaire, et j'imagine que on rencontre tous dans nos vies des gens qui sont dans le désespoir, qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? Comment l'espérance, non pas on la reçoit, mais comment est-ce qu'on peut la donner alors? Qu'est-ce qu'on peut dire à l'autre? On peut lui dire, il y en a d'autres qui tiennent, donc tiens bon aussi. Je ne sais pas si ça suffit.
Alors, je dirais deux choses. Je suis pas sûr qu'on ait besoin des autres pour espérer. Si on entend par l'espérance une théorie un peu vague qui pourrait nous venir avec la foi de façon un peu automatique, je pense qu'on a besoin des autres pour apprendre à espérer. C'est-à-dire quand notre espérance se laisse éprouver par la réalité, voilà, ou la réalité des enfers, disons ça comme ça, par lesquels on peut passer, par lesquels des personnes peuvent passer, des sociétés peuvent passer, voilà. Là, oui, je crois que vraiment on a besoin des autres pour apprendre à espérer. Et puis, pour la question de l'espérance, comment est-ce qu'on peut la transmettre? Alors, je me permets de faire le théologien une minute. Si c'est vrai que, comme on le trouve chez, par exemple, Thomas d'Aquin, l'espérance, elle est une vertu théologale, c'est-à-dire qu'elle est donnée par Dieu et que son objet, c'est pas seulement ce que Dieu va donner, mais c'est Dieu lui-même, alors on ne peut pas la transmettre. Comme la foi. C'est-à-dire ce que Dieu donne, c'est Dieu qui le donne. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse transmettre l'espérance, et même je pense qu'on ne peut que blesser et causer de grandes douleurs en s'adressant à quelqu'un qui connaît le désespoir pour lui transmettre l'espérance, croirait-on. En revanche, il me semble que être là avec la personne, ça compte. Il me semble aussi que oser crier dans le désespoir avec la personne, ça compte aussi. Il se trouve que Jésus, sur la croix, d'après l'évangile de Matthieu et d'après l'évangile de Marc, crie vers Dieu et crie de désespoir, avec les paroles d'un psaume, mais crie de désespoir. Seulement, il crie, c'est-à-dire qu'il s'adresse à Dieu. Et pour moi, adresser à Dieu le désespoir dont je suis témoin, et qui nous gagne aussi, qui me gagne. C'est-à-dire, on peut pas être témoin du désespoir en étant indemne, comme si on avait une combinaison étanche. Adresser à Dieu le désespoir, ça pour moi c'est vraiment, disons, déjà l'espérance. Voilà. Et en tout cas, tout autre chose que de croire qu'on peut enseigner l'espérance à quelqu'un.
Maxime Gabory, comment est-ce que vous entendez ces paroles? J'imagine que ça résonne en vous parce qu'il y a cette histoire de cri et que vous travaillez sur les militants pour le climat qui manifestent, qui crient. Et avec votre parcours peut-être que vous pouvez nous dire un peu personnellement ce que votre chemin de conversion a pu changer dans la façon dont vous inscrivez, enfin dont vous vivez avec ces militants dont peut-être vous êtes vous-même un militant. Comment est-ce que vous les voyez? Est-ce que la façon d'accompagner ce mouvement a changé? Est-ce que quelque chose a changé dans la façon dont vous vivez ça?
Alors, c'est des questions compliquées, peut-être pas dans la manière de les accompagner, mais en tout cas dans la manière de lire et de vivre cet engagement qui est d'abord le leur, parce que là il y a une distance qui se crée dans la recherche elle-même, mais que je partage complètement et dont je fais partie d'une certaine manière de cet engagement. J'ai eu une manière de voir la foi particulière. Alors je sais pas ce que pourraient en dire des théologiens, mais qui est très lié à ça et qui me fait à la fois tenir et qui dans l'expérience du militantisme écologiste en retour nourrit aussi ma foi, qui est très liée à la vie. Alors on parlait de la résistance. C'est intéressant de voir que au XIXe siècle, quand on savait pas trop comment faire une science de la vie, Xavier Bichat, le médecin, la seule manière qu'il a trouvée pour sortir de l'opposition entre ceux qui disaient la vie c'est juste un mécanisme et les autres qui disaient la vie c'est une substance un peu mystique, on peut rien en dire. La seule définition qu'on pouvait en donner pour le faire rentrer dans le champ de la science, c'était « la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort ». Dans la vie elle-même, il y a la résistance à la mort, non pas comme un surplus, un supplément, mais comme quelque chose de primordial, d'essentiel. Et c'est comme ça qu'on a pu ensuite développer le discours biologiste, sans en quelque sorte percée de Xavier Bichat, ça aurait été compliqué. Donc la mort, en quelque sorte, travaille la vie de l'intérieur. Et la perspective de l'extinction, alors qu'on considère que c'est une possibilité scientifique avérée, que la vie se meurt, sans doute pas, mais en tout cas comme expérience de pensée. C'est-à-dire se concevoir chaque vivant comme faisant partie d'un même mouvement de, disons, différenciation de l'extinction, ou en tout cas de résistance face à l'extinction. C'est une expérience de communion absolument essentielle et très forte à la fois pour le chercheur, mais pour les militants aussi. Ce mouvement dans lequel c'est pas seulement deux personnes qui résistent pour leur existence eux-mêmes, qui serait une logique immunitaire, une logique de protection de soi et pour soi, qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui de manière chaque jour un peu plus tragique dans de nombreux contextes politiques. Mais c'est vraiment à l'inverse de l'immunité, un mouvement de communauté. Les mots sont liés. La communauté, c'est Jean-Luc Nancy, le philosophe, qui a ces belles paroles dessus. La communauté, c'est la commune exposition à la mort. Le faire communauté, c'est accepter de s'exposer à la mort, mais aussi de considérer l'autre comme exposé à la mort. Et dans cette expérience-là, et dans cette vie qui persiste pas en faisant fi de l'extinction, mais face à elle et directement face à elle, il y a une expérience de communion que les militants vivent eux-mêmes sans forcément, évidemment, mettre ces mots dessus quand ils ne partagent pas, en quelque sorte, ma foi, mais qui, en tout cas, de mon point de vue, est une dynamique essentielle de leur lutte elle-même.
Isabelle Le Bourgeois, je voudrais vous interroger sur la façon dont l'espérance et la crise s'articulent dans le temps. Parce qu'on entend depuis tout à l'heure des mots invention, promesse, regarder vers l'avenir, regarder vers maintenir une force de vie qui pousse vers l'avant. Mais vous avez aussi parlé de l'alliance. Et l'alliance, c'est aussi quelque chose dont on fait mémoire, dont on se souvient. Et l'espérance, elle a partie liée avec le passé et avec l'avenir. Mais pour parler spécifiquement du passé, puisque dans votre livre, Vivre avec l'irréparé, il y a quelque chose qui fait appel au passé douloureux, blessé, des gens qui viennent vous voir que vous écoutez. Quelquefois, ce passé peut enfermer, emprisonner, empêcher peut-être d'espérer. Je ne sais pas si, enfin, François Dinet nous a dit qu'on ne pouvait pas, certainement pas, transmettre l'espérance, l'apprendre, mais on peut constater qu'il y a des gens avec leur parcours qui n'en sont pas là, qui n'en sont pas encore capables. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça?
Alors, on ne peut pas enseigner l'espérance, c'est une évidence, mais on peut aider à sortir de la désespérance. En tout cas, bon. C'est-à-dire que dans ce que je voulais dire par vivre avec l'irréparé, c'est comment apprendre à vivre avec ce qui paraît détruit définitivement en nous, ce qui semble empêcher toute vie, faire obstacle, voilà, à une vie qui continue. Comment est-ce que on peut apprivoiser ça en nous? C'est-à-dire que faire le tri entre ce qui a eu lieu, qui est irréparable, sur lequel on ne reviendra pas, et sur ce qui est la conséquence ou les conséquences de cet irréparable, et que j'ai nommé l'irréparé. Comment est-ce que d'abord apprendre à le nommer et apprendre à voir comment est-ce que déjà dans ma vie j'ai pu apprendre à prendre des appuis dont je ne pensais pas qu'ils étaient là et qu'ils étaient aussi forts. Ça aussi, c'est le travail, j'allais dire, de la psychanalyse. Bon. Faire comprendre ou entendre, voilà, peut-être, à celui ou à celle qui me parle, qu'il a en lui des forces insoupçonnées. Bon. Une vie insoupçonnée. Et c'est sur sa vie à lui, sur ses forces à lui, que les choses vont pouvoir s'appuyer. Voilà. Et c'est irréparé. Il est pour moi signe d'une grande promesse. Irréparé, c'est pas irréparable. C'est ce qui n'est pas encore réparé, mais ce qui est possible encore de réparer. Donc la vie a de l'avenir avec ça. Voilà. Et ça, c'est un travail de fond parce que moi, dans mon coin, j'espère, au sens où je ne désespère pas de l'humain que j'ai avec moi, mais je ne peux espérer que seul, là. Lui, il en est là où il en est. Et comment dire, il y a des temps très longs. Très longs, ça dure des mois, des années, où la désespérance semble l'emporter. Il s'agit pas de couler soi-même, c'est ça que je veux dire, hein, parce que c'est pas la peine de faire ce métier sinon. Voilà. Il s'agit pas de couler soi-même. Or, les forces de mort sont telles quelquefois qu'il faut faire extrêmement attention. Je me rends compte que c'est, dans certains cas, un métier un petit peu dangereux. Voilà. Et qu'il faut savoir s'arrêter à temps, à certains moments. Pas avoir trop d'écoute épouvantablement lourde. Voilà. J'ai mis du temps, quelquefois, peut-être, à l'entendre, ça. On croit qu'on est capable de traverser, j'allais dire, parce qu'on a la foi et on y va, voilà. Mais non, ça détruit quelque chose, ou ça peut détruire quelque chose. Il faut faire extrêmement attention à cette pente en nous qui irait facilement vers l'ombre, voilà. Hein. Comme si elle était fascinante. C'est étonnant, ça. Voilà.
Est-ce que ça résonne chez vous, François Audinet et Maxime Gabory? Maxime, on pense, il y a un mot que tout le monde connaît aujourd'hui, le climato-scepticisme. Regarder la crise, regarder l'effondrement en face, l'extinction, ça peut être, il y a quelquefois une fascination qui peut avoir une fascination morbide, mais quelque chose qui peut vraiment, il y a une force de mort là-dedans. Est-ce que ça, vous pensez aussi que ça peut être à vous éprouver ce danger qu'Isabelle Le Bourgeois vient d'évoquer?
Alors, peut-être pas de la même manière, mais en tout cas, dans aujourd'hui le renouveau de forces politiques qui nient la catastrophe écologique, il y a effectivement une force de mort, ou en tout cas une peut-être moins une force de mort, mais disons une volonté immunitaire, c'est-à-dire aussi une volonté de ne pas se penser comme étant vulnérable. Et que cette vulnérabilité qui ne peut pas être, dépassée de la catastrophe écologique. Hein, pendant des décennies, le discours dominant sur l'écologie, c'était dans le cadre du système économique et politique actuel, on va réussir à, digérer la catastrophe, à l'éviter, parce que le système économique est capable de prendre en compte... Il y a aujourd'hui une puissance de la catastrophe qui vient remettre en cause ce récit-là. Et donc le récit de l'adaptation face à la catastrophe devient en quelque sorte intenable. Et c'est là que les oppositions se font les plus vives. Soit on accepte cette vulnérabilité-là et la vulnérabilité de l'autre comme étant une part aussi de notre propre vulnérabilité, soit le déni s'intensifie, et je crois qu'on est dans ce moment-là aussi politiquement, d'un déni qui se réaffirme précisément parce que la catastrophe devient de plus en plus difficile à nier, et que les récits optimistes ne sont plus convaincants, et donc il faut soit dénier, soit affronter la vulnérabilité.
Là, ça rejoint ce que vous disiez peut-être, François Linet, sur le besoin de l'autre pour apprendre à espérer. La première étape, c'est peut-être de regarder en face la réalité. Sans doute pour le cas de la grande pauvreté, il y a aussi chez certains politiquement, enfin ou chez nous tous, mais une part de déni où on ne veut pas regarder les choses en face. Si on ne regarde pas en face, on ne peut pas non plus, en fait, il faut traverser la mort pour espérer. Enfin, il y a quelque chose comme ça.
Ce déni que peut produire la confrontation à la misère, il se voit bien dans la culpabilité qu'on fait peser sur les plus pauvres de la situation dans laquelle ils sont. Je crois que ça fait partie du déni de ce que notre humanité puisse être ainsi, et d'une certaine manière presque du déni de ce que collectivement nous pouvons faire à d'autres que nous ne connaissons même pas. Voilà. Du coup, je crois que la forte culpabilité qu'on fait peser sur les plus pauvres, elle est vraiment une trace de ça. Mais à l'inverse, la confrontation à la misère, elle peut aussi provoquer à l'alliance. Et là, il y a quelque chose, me semble-t-il, vraiment de l'espérance, c'est-à-dire que le constat que pour certains ou certaines d'entre nous, la vie est injustement difficile, et ça c'est le fait de processus que notre histoire a produit, c'est pas le fait du hasard malheureux, c'est le fait de processus que notre histoire a produit, mais qu'il est possible de résister à cela ensemble, qu'il est possible d'inventer quelque chose ensemble, non pas en tendant la main avec condescendance aux miséreux, mais en constatant ce que les personnes confrontées à la misère elles-mêmes savent, encore une fois, inventer, créer, et en essayant de déblayer avec elles, alors là, il me semble qu'il y a quelque chose de très précieux. Donc, il y a du déni, il y a de l'alliance, il peut y avoir les deux, il y a des conversions de l'une à l'autre qui sont possibles aussi.
Mais très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire inventer ? Qu'est-ce qu'on a inventé et pourquoi est-ce que, enfin, si on dit inventer, il faut peut-être pouvoir, on a envie de vous dire, mais inventer quoi ? Quel horizon ? Est-ce qu'on sait où on va ? Ou est-ce que simplement être en mouvement, c'est déjà ça l'espérance ?
Alors, c'est une très grande question parce que inventer un horizon, c'est ce dont on rêve, mais les personnes qui sont vraiment dans la très grande précarité nous obligent à être dans une forme d'infra-politique. C'est-à-dire que les personnes ne peuvent pas simplement tout de suite être avec nous dans un discours où on dit « il suffit de faire ci, il suffit de faire ça, et puis la misère est éradiquée ou la guerre est terminée ». Voilà. En fait, c'est pas vrai. Et donc, forcément, elles nous ramènent à quelque chose qui n'est pas de inventer un horizon, mais d'inventer un quotidien. C'est-à-dire de rendre notre vie commune aujourd'hui vivable. Voilà. Ça me semble possible d'être inventé. Je constate que les personnes savent aussi l'inventer. Et il me semble que dans beaucoup d'associations ou de lieux avec, où on essaie de vivre cette alliance avec les personnes en précarité, on essaie précisément d'inventer quelque chose dans la scolarisation de ceux qui n'y avaient pas accès, dans des manières de vivre ensemble la culture, dans des manières d'écouter des voix, dans des manières de faire droit à la spiritualité des plus pauvres, etc., etc.
Ça rejoint le vivre avec l'irréparé, si je comprends bien, Isabelle Le Bourgeois.
Ouais.
Le quotidien, oui. Avec les blessures, enfin avec les marques qui sont là, trouver une vie aujourd'hui.
Oui, alors ça c'est l'immense décalage que j'ai constaté lorsque j'étais au milieu de prison, entre, j'allais dire, le récit de ces hommes exclus, damnés, condamnés, mis au ban de la société, mais qui ont un parcours personnel extrêmement douloureux. Hein. Donc ce quotidien-là avec eux, comment tenir dans une humanité, voilà, au quotidien avec eux. Et le discours officiel sur la prison, un double jeu, voilà, double entrée. Le premier, c'est « mais on va les réinsérer, mais c'est très important, mais il faut mettre les moyens, etc. etc. » Et on voit bien que ce n'est jamais fait, et que c'est encore pire d'année en année. Voilà. Et qu'il y a une incapacité là, même à prendre en compte, j'allais dire, cette humanité, comme si on en déniait la possibilité de devenir humaine. Voilà. On a toute une partie, alors vraisemblablement je ne connais pas aussi bien que vous les personnes en grande précarité dans la rue, mais en revanche les personnes détenues, je les connais un peu, et celles-là, on leur dénie d'une certaine façon le droit de devenir ou de redevenir des personnes humaines à part entière. Voilà. Ça, il y a quelque chose, vous voyez, alors comment à la fois gérer ce quotidien et au quotidien leur donner ce qu'il faut pour vivre ce quotidien-là. Et ne pas désespérer de leur propre humanité, et du coup de la mienne aussi avec eux, et puis cette incapacité qu'on a collectivement de les reprendre et de croire qu'ils vont être capables et de donner les moyens pour ça, évidemment. Bon. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve, c'est une espèce de gap là qui est terrible, parce que c'est, je sais pas, on est dans une impuissance totale. On voit bien ce qui pourrait être fait, et on ne veut pas le faire, ou on ne peut pas le faire, je ne sais pas. Bon, mais là, il y a vraiment quelque chose de terrible, je trouve.
Dans quelques minutes, on va pouvoir passer des micros dans la salle, donc vous pouvez commencer à réfléchir s'il y a des questions qui vous sont nées de cet échange. Mais Maxime Gabory, ce que disait Isabelle Le Bourgeois à l'instant, où on dénie à certaines personnes ce droit d'être humain, enfin cette condition humaine, dans la pensée de la catastrophe écologique, ça va peut-être au-delà d'une certaine façon, enfin plus largement que l'humanité, on dénie le droit d'être vivant à la vie sous toutes ces formes que vous évoquiez en début de conversation, c'est-à-dire les animaux, les végétaux. On voit des espèces s'éteindre sans s'en préoccuper, en regardant ça, sans, en déniant le droit de ces espèces à vivre d'une certaine façon.
Il y a un très beau concept de la philosophe Judith Butler, qui est alors le concept de pleurabilité. Elle parle, Judith Butler, de pleurabilité des vies. Il y a des vies qui sont pleurables, des vies qu'on pleure et des vies qu'on ne pleure pas. Si aujourd'hui on peut faire l'expérience au quotidien dans les actualités de cet écart parfois insupportable entre des vies qui sont socialement identifiées comme étant pleurables et des vies considérées comme étant non pleurables, il y a effectivement dans le mouvement écologiste actuel un mouvement d'élargissement encore plus grand de l'espace de la pleurabilité en disant pourquoi limiter le domaine du pleurable au domaine des vies à des vies humaines. Et donc dans l'élargissement de la pleurabilité effectivement à l'ensemble de la création, l'ensemble du vivant, il y a un élargissement aussi de l'espérance, parce qu'aussi on s'autorise à voir de la vie et donc de l'invention. Je suis assez effectivement de cette capacité à résister à la mort qui est toujours incalculable, qui est jamais prédéterminé à l'avance. On résiste pas à la mort de manière sous le mode de la conservation, en reproduisant toujours le même. Et il y a effectivement cette force-là, alors qui est très sécularisée dans le mouvement climat, qui se dit en de tout autre terme, mais il y a effectivement une sorte d'élargissement du domaine du pleurable.
Et François, oui.
Est-ce que je peux dire un mot un peu théologique, parce que je me dis en nous écoutant, peut-être certains ou certaines se disent ou ressentent une forme de nostalgie de l'horizon en disant finalement là ce qu'on dit de l'espérance, c'est pas regarder vers l'horizon lointain avec l'espérance qu'on va y arriver et puis voilà. Dans la tradition théologique, il y a diverses manières de se représenter le contenu de l'espérance, et pour schématiser, il y aurait une manière qui est de dire on va vers le ciel. Voilà, un horizon au-delà de la mort est plus fort que la mort. Il y a une autre manière de se représenter le contenu de l'espérance qui est de dire « Dieu fait approcher de nous son royaume ». Et ce sont deux mouvements qui sont pas contradictoires, évidemment, mais qui, à mon avis, dont il est bon de visualiser à quoi ils renvoient. Et dire que « Dieu fait approcher de nous son royaume », ça veut dire que le contenu pour nous de l'espérance, c'est-à-dire la manière dont Dieu veut renouveler toute notre réalité, c'est Dieu qui l'a fait approcher vers nous. Notre première tâche n'est donc pas de regarder loin, très loin, au-delà de ce qui obstrue notre vue, mais au contraire, de veiller, comme dit l'Évangile, d'être vigilant pour accueillir le royaume que Dieu fait s'approcher, parce que nous espérons bien que aujourd'hui, dans la douleur ou dans la catastrophe, il fait bien s'approcher son royaume.
Peut-être que c'est sur ces mots théologique et d'espérance qu'on va vous passer la parole aux uns et aux autres. Si vous avez des questions, donc je vois qu'il y a des micros sur les côtés, et on a un petit quart d'heure ou un quart d'heure pour quelques questions. S'il y en a beaucoup, on va peut-être en prendre plusieurs d'un coup ensemble, faire des petits lots. Et s'il y en a peu, on les prend une par une. Donc quelqu'un se lance, ça fait partie du jeu.
Bonjour, c'est pas vraiment une question, mais merci beaucoup de cet échange. Je trouve très intéressant le fait que vous alliez jusqu'à nommer la catastrophe et la mort qui s'approche, et que c'est au cœur de cette mort que surgit la vie. Je trouve qu'il y a quelque chose, peut-être parfois dans nos discours, qui sont un peu une espérance à bon compte, disons, et sans affronter la réalité de la mort, de l'irréparable, de ce que vous avez abordé tous les trois. Et peut-être comme question, comment justement ce discours-là d'affronter la mort dans votre travail théologique, peut-être. Maxime, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est audible Enfin, vous avez parlé du déni, on a parlé de différentes formes finalement pour éviter cet affrontement de la mort. Dans votre travail ou dans les, est-ce que c'est quelque chose qui est justement abordable ou au contraire une grande difficulté d'aborder cette question de la mort?
Donc mon travail n'est pas théologique, c'est vraiment en sciences sociales, même si ça s'est peut-être pas beaucoup vu dans mon discours depuis le début de la conférence. Mais du coup, je vais essayer de remettre une casquette de sciences sociales et essayer de créer des catégories entre différents militants climat. Entre, il y a effectivement des militants climat pour qui l'affrontement de la mort est beaucoup moins présent. Et qui reste dans un paradigme un peu, disons, environnementaliste, on va dire, dans lequel la catastrophe est sans cesse évacuée. Donc, dans les entretiens qu'on peut faire avec eux, c'est, on entend des discours. Alors, soit des discours qui, de toute façon, on va s'en sortir, soit au contraire des discours qui, en fait, n'en sont que le pendant inverse, qui est, oui, bon, de toute façon, on va tous mourir un jour, mais qui est tellement massif, tellement global et qui est déconnecté de toute forme d'expérience émotive propre, que c'est aussi une autre forme du déni, des discours un peu dans le sens où on va tous mourir. Mais c'est dans le mouvement climat pas ceux qui sont les plus investis justement. C'est ceux qui s'investissent moins dans les actions de désobéissance civile, dans les marches pour le climat, qui insistent le plus sur l'importance d'avoir des gestes au quotidien pour l'écologie, mais qui dans la pratique en font le moins. Et il y a à l'inverse effectivement toute une partie du mouvement qui dit les gestes individuels, ça sert à rien, c'est pas comme ça qu'on résoudra les choses, et qui au quotidien transforme tout un tas de pratiques, met en place des stratégies parfois très intenses de réforme du quotidien pour éviter de polluer trop, mais c'est souvent ceux qui disent que ça sert le moins, qui sont lucides sur le fait que c'est pas un changement individuel qui va. Et c'est ceux qui sont le plus lucides aussi sur la catastrophe. Et donc on voit, et d'ailleurs les deux sont liés, c'est aussi par un travail au quotidien pour, disons, faire correspondre son existence à ses idéaux écologiques, que la conscience de la catastrophe reste présente. Parce que la catastrophe, disons, cette menace-là, elle est moins prégnante que l'extrême pauvreté ou des douleurs psychiques très fortes, et donc il faut réitérer en quelque sorte cette conscience-là, elle se fait pas d'elle-même, et du coup la transformation du quotidien, oui. Et donc, pour répondre à votre question, c'est même au sein des militants climat, il y a tout un tas de stratégies pour maintenir cette expérience-là, et puis tout un tas aussi de stratégies dans les organisations climat pour la faire vivre, et surtout pour prendre soin. C'est une autre dynamique essentielle, je crois, des dernières années. C'est la mise en place, voilà, de ce qu'Extinction Rebellion, par exemple, appelait la culture régénératrice, qui consiste à prendre soin les uns des autres face à la catastrophe que chacun expérimente. Et donc des espaces qui sont à la base des espaces militants, politiques, qui deviennent des espaces de partage de parole et de soutien mutuel. Et donc c'est par tous ces biais-là que à la fois se renforce la conscience de la catastrophe, le fait de pas détourner les yeux, et en même temps de créer quelque chose comme de l'espérance depuis des espaces de lutte.
Maxime, je suis très contente de vous entendre, parce que je fais partie moi-même d'une association
chrétienne. Un peu plus près du micro, madame.
Ouais, je fais partie d'une association chrétienne Unie pour la Terre. Et justement, ces dernières années, on a eu besoin d'avoir des espaces qu'on appelle de sororalité, parce qu'on est tous un peu isolés dans nos familles, dans nos métiers, tout ça. On a l'impression que rien ne bouge et rien n'avance malgré notre détermination. Et du coup, ça nous fait du bien de parfois poser des paroles de soins les uns envers les autres, de se porter les uns envers les autres. Et puis, on a tous fait aussi quelque chose qui nous donne espoir, c'est le travail qui relie avec les différentes étapes. Déjà, reconnaître la gratitude qu'on a envers la Terre, honorer sa peine pour l'extinction des espèces, et dernièrement, se tourner vers l'action. C'est l'action qui nous tient, mais parfois, c'est pas toujours évident.
Bonjour, je ne sais pas trop si ma question elle va être pertinente parce que je ne sais pas trop à qui l'adresser. Mais du coup, moi, je me demandais pourquoi vous avez fait le choix en particulier du mot « espérer » dans un monde en crise. Parce que pour moi, il résonne un peu, enfin une dimension, je ne sais pas trop, hein, parce que je ne connais pas précisément, mais une dimension un peu illusoire et d'incertitude, presque un peu comme si on espérait en vain. Et donc pas, par exemple, plutôt le choix d'un mot comme « croire » ou voilà, qui témoigne peut-être de plus de certitude, mais je ne sais pas trop.
Alors, qu'est-ce qu'il veut répondre? Je crois que aucun de vous trois, en tout cas, mais ni moi, n'avons formulé l'intitulé, mais on va quand même répondre. Peut-être, si je enfin, pourquoi pas croire? Est-ce que espérer, c'est différent de croire? Et en deçà, est-ce que l'espérance, c'est cette espèce d'optimisme ou quelque chose de cet ordre-là, François?
Juste deux choses. Vous évoquez illusion ou incertitude. Moi, j'assimilerais pas les deux quand même. C'est-à-dire que l'illusion, c'est ce que nous préférons éviter quand même, au moins par goût de la vérité. Alors que je pense l'incertitude, elle fait partie non seulement de l'espérance, mais aussi de la foi. Et elle fait partie de tout chemin qui s'affronte à une réalité à la fois douloureuse, mais aussi tout simplement complexe, me semble-t-il. Et puis, la question entre croire et espérer, ou foi et espérance, là vous touchez à une question théologique très délicate. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce qu'il y a une différence entre croire et espérer? Alors dans des catégories parfois étanches, on dit oui, croire c'est accueillir la révélation de Dieu, espérer c'est attendre les biens que Dieu va nous donner, voilà. D'autres, je me rangerai dans cette catégorie, disent que c'est fondamentalement le même acte que de croire et que d'espérer. Parce que si on parle de croire sans espérer, du coup, on parlerait d'un Dieu sans trop de rapport avec la réalité, en fait, notamment avec la douleur et la complexité de cette réalité. Donc, à mon avis, qu'on dise croire dans un monde en crise ou espérer dans un monde en crise, au fond, on dit la même chose.
Et si on disait croire en un monde incertain, on dirait aussi la même chose. Voilà, parce qu'en fait, il s'agit bien de ça. Je pense que l'incertitude, j'aime bien la distinction que vous avez faite, bon, et je pense que l'incertitude, elle fait partie de nos vies. Qu'est-ce qu'on sait des minutes qui vont suivre? Absolument rien. Bon, alors, on est tout le temps là-dedans, et il faut bien quand même trouver une posture intérieure qui nous permet d'avancer, parce que sinon c'est invivable. Et l'espérance fait partie, je pense, de cette posture de fond, de cette attitude de fond, voilà, croire en un monde incertain, dans un monde incertain, pas en un monde incertain, mais dans un monde incertain, voilà.
Oui, j'aurais une question. J'ai l'impression que dans tout ce que vous avez exprimé, moi je fais un peu du lien entre espérer, l'espérance et la dignité des personnes. Comment ces deux mots peuvent être liés? Vous l'avez un peu, enfin vous l'avez exprimé, j'ai l'impression. Mais quelle dignité on trouve chez les blessés de la vie, les détenus, les pauvres, les militants écologistes qui ne sont pas entendus, écoutés, qui ne sont pas forcément considérés? Comment elles s'expriment, donc, voilà, dans chaque personne? Et quel rôle, plus particulièrement l'Église et des chrétiens, ont dans la dignité qu'on peut donner à chaque personne pour leur permettre d'espérer?
Tout à l'heure, on parlait de déni de la mort. Moi, j'aurais envie de parler aussi de déni de la vie. Finalement, c'est la fausse. Enfin, c'est les deux faces d'une même médaille. Voilà. Bon. Et je crois que le mot dignité est associé à ce déni-là, et plus exactement, malheureusement associé à ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dignité s'il y a déni. Voilà. Déni d'une vie possible pour tout être humain. Je vais prendre une position politique forte. Je pense qu'aujourd'hui, notre monde, avec M. Trump à la tête des États-Unis, est une manière de ne pas, j'allais dire, rendre compte fondamentalement de la dignité humaine. Voilà. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument terrifiant. Parce que, et je dois dire que je rends hommage à cet évêque, dont j'ai oublié le nom, bon, mais vous l'avez entendu, voilà, qui a osé dire devant M. Trump ce qu'elle pensait qui pouvait être une attitude chrétienne. Vous avez vu comment il l'a pris. C'est inquiétant parce que c'est comme si ce déni profond de l'humanité de l'autre était quelque chose qui aujourd'hui était, j'allais dire, la valeur suprême ou quoi ? C'est pas possible ça. Et vivre aujourd'hui dans l'espérance, c'est aussi combattre, pour moi en tout cas, ou essayer de tenir bon dans ce combat-là pour dénoncer des pratiques, enfin une attitude de ce genre, fondamentalement. Mais comment c'est possible que l'on dénie à tant d'êtres humains la capacité tout simplement de dire tu es un être humain à part entière et j'espère en toi. Voilà. Comme disait Boudicqué en commentant un certain nombre de tableaux de Rembrandt notamment, il disait les seuls regards d'amour sont ceux qui nous espèrent, envers et contre tout. Bon.
Monsieur au milieu.
Je ne sais pas si j'ai bien compris, Isabelle Le Bourgeois, vous travaillez aussi sur la question des abus dans l'Église. Oui. Bah, comme ça a été évoqué aussi dans le petit passage du début, je voulais vous demander à vous trois, enfin ceux qui veulent en parler, mais les abus sont une grosse cause de désespérance dans l'Église. Je pense qu'on peut le dire. Qu'est-ce que vous espérez pour l'Église aujourd'hui, catholique, romaine?
C'est une bonne question que je me pose régulièrement et à laquelle je ne peux pas répondre comme ça aussi clairement. Ce sont là aussi des êtres humains partout et tout le temps. Et pour moi, ça a force de conviction au sens où force d'entraînement dans le combat ensemble. Il y a quand même dans cette église beaucoup de gens qui pensent que l'humain vaut la peine, que l'humain a de la dignité, que voilà, qu'il y a là une possibilité, je dirais, de continuer à vivre l'évangile de cette façon. Alors, nous sommes imparfaits, tous, absolument tous, hein. Et cette imperfection-là, moi j'aimais bien qu'on parle de notre vulnérabilité, mais au sens profond du terme, c'est-à-dire que nous ne sommes pas parce que nous écoutons les abuseurs ou les abusés dans l'Église, meilleurs que ceux qui sont ailleurs. Voilà. Je ne peux pas me permettre de poser un jugement ou un regard de jugement définitif en disant il y a une partie pourrie et puis c'est foutu. Mais comment est-ce que dans une espèce de je termine, hein, de qu'on puisse prendre la mesure tous ensemble de ce qui nous rend complices quand même de quelque chose qui ne va pas. Voilà. Le système, nous en sommes complices d'une certaine façon.
Est-ce que je peux vous demander, Maxime, un peu, parce que la question était collective et que vous nous avez dit que vous aviez été baptisé il y a quelques mois, peut-être votre réponse à cette question. Vous avez donc rejoint l'Église dans ce moment de crise traversée, très profonde, qui désespère des chrétiens. Comment est-ce que vous entendez la question qui vient d'être posée?
C'est difficile pour moi de répondre à ça et je me permettrai pas de discours très général, mais simplement l'expérience que j'ai pu faire très concrète, ancrée, locale, c'est par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. L'expérience en très grande majorité de gens qui croient fondamentalement à la dignité de la vie et que les vies méritent d'être vécues et surtout que il est possible de prendre en compte il faut prendre en compte la vulnérabilité de chacun et que il y a dans le message du Christ et dans les évangiles une vérité qu'il est pas essentielle et irremplaçable d'une certaine manière. C'est que ça peut en nul autre lieu l'énoncé aussi radical de cette vérité là ne retentit, même quand parfois elle est masquée sous les abus et aussi parfois sous des formes de traditionnalisme, en tout cas de manière dogmatique, qui parfois la rendent moins visible, mais que cette croyance dans le fait que la vie est incertaine et que elle est tournée vers l'amour, c'est-à-dire vers le fait de ne pas uniquement prendre en compte son petit dans sa petite trajectoire personnelle, mais qu'on est fondamentalement lié aux autres par la vie, en tant que ensemble on fait face à la même finitude. Il y a quelque chose qui est, alors désolé pour la réponse un peu confuse, mais irremplaçable dans le message de l'Église et le message du Christ, dont il faut souhaiter qu'il soit aujourd'hui entendu encore et encore au-delà de ces murs.
Je crois pas que c'était confus, et c'est même, vous avez dit le mot amour, c'était ce qui n'avait pas encore été dit, je crois, dans cette conversation, donc c'était important, et c'est avec ça qu'on va terminer. Merci beaucoup à tous les trois.
Alors, Isabelle Le Bourgeois évoquait il y a quelques instants l'incertitude qui pouvait porter même sur les prochaines minutes. Je vais lever cette incertitude pour rappeler, dans le planning que vous avez, que l'étape d'après, c'est le temps de prière qui est proposé à l'église Saint-Ignace, qui est un temps animé par les étudiants du pôle liturgie du BDE. 19h45, rendez-vous à Saint-Ignace. Vous pouvez passer par l'espace Jeannot où il y a une exposition, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, des œuvres réalisées par les étudiants. Je profite de ce petit mot pour évidemment dire bravo à nos étudiants pour l'introduction théâtralisée du début qui était prévue pour répondre à certains. On était au courant, rassurez-vous. Bravo à eux donc, et puis merci encore une fois aux intervenants.